y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes.
Bonsoir Léo Ferré.
Bonsoir.
Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. On vient d'entendre un tout petit extrait d'une chanson de votre dernier disque, Les Anarchistes. Puis on vous a souvent traité d'anarchiste. L'êtes-vous ?
Évidemment, je suis. Vous venez de dire, on m'a souvent traité d'anarchiste,
oui.
Comme on traite les gens.
Oui.
Parce qu'on traite toujours les gens. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de changé. Le mot anarchie fait peur aux gens. Parce que c'est un mot qui a été mal compris. Les anarchistes me faisaient peur à la fin du 19e siècle, car ils agissaient tout seuls et d'une façon irraisonnée, irraisonnable, bien qu'ils avaient la raison, eux, dans le cœur, mais leur raison est dans leur cœur. Et ils mettaient des bombes comme ça, au hasard. Ils étaient seuls à le savoir, d'ailleurs. Et depuis, les choses ont évidemment changé, et l'anarchie s'est devenue un état d'âme. Et depuis mai 68, je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler, la compréhension de ce mot est s'est clarifiée pour les gens et on ne rit plus quand on regarde et quand on parle à un anarchiste. C'est-à-dire que je pense que maintenant on ne me traite plus d'anarchiste.
On ne rit plus, mais on pense à la violence.
Oui, sûrement, parce que on peut pas rendre des bises et des baisers à quelqu'un qui vous envoie un coup de poing dans la gueule, vous comprenez ?
Et oui, mais vous n'êtes pas un violent, vous ?
Je suis pas violent parce que... Mais oui, je suis un violent.
Oui ?
Sûrement, je suis un violent.
Pour descendre dans la rue, pour vous bagarrer ?
S'il fallait, je le ferais. Je ne sais pas le faire. C'est pas mon métier. C'est un métier de se bagarrer aussi. C'est-à-dire, il faut savoir le faire. Mais l'important, je pense que ça n'est pas tellement la bagarre. Parce que la bagarre, ça finit toujours mal et au détriment des gens qui l'ont provoqué. Dans le bon sens, je parle des bagarres utiles maintenant. Les seules bagarres utiles, ce sont des bagarres qui nous regardent, nous autres, que l'on dit encore des gens de gauche, bien que ce mot de gauche soit changé de sens aussi. Il n'y a plus de gauche, par exemple. En France, dans mon pays, il n'y a plus de gauche, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Nous sommes d'extrême gauche. Admettons que nous soyons de la gauche, mais de la gauche comme le cœur est à gauche.
Mais vous, où vous vous placez dans cette anarchie ?
C'est difficile à dire, parce que l'anarchie, c'est un soliloque. Et c'est assez dire que cette solitude est d'abord grave. On est seul, évidemment. Mais il me semble que il ne faudrait pas grand-chose pour que on se réunisse, en fait, pour qu'on se connaisse tous, vous comprenez. Et cela uniquement par l'amour.
Je pense un petit peu au Léo Ferré dans des prises de position, mettons la guerre du Vietnam. Est-ce que vous êtes arrivé de prendre position pour ou contre la guerre? On fait beaucoup de marches de paix. Est-ce que vous avez signé des manifestes?
Oh, c'est con, les manifestes. Je ne peux pas supporter les gens qui signent des manifestes, qui restent dans leur pays, dans leur bureau, ou dans leur café. Les manifestes, ça s'invente dans les cafés.
Alors, la guerre du Vietnam, pour vous?
Moi, je n'ose pas en parler parce que c'est une chose... abominable, et j'ai pas le droit de parler de ça, parce que si je devais parler de la guerre du Vietnam, je partirais là-bas, vous comprenez. Or, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas partir là-bas. Il y a une image qui me revient de la guerre du Vietnam un jour, justement à la télévision, qui par moment est un art extraordinaire, parce qu'un art pleinement vivant. Et j'avais vu un petit garçon, Viet Cong, qui était qui venait de loin, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, quand on prend une image de loin et que la personne arrive sur la caméra, petit à petit, comme ça. Et ce petit avait 4 ou 5 ans. Et il n'avait plus qu'une jambe, il avait de l'autre côté un pilon, vraiment la jambe en bois, le pilon. Ça, c'était une image qui m'a marqué beaucoup. Et quand on pense qu'il peut exister des choses comme ça, et qu'il n'arrête pas cette guerre, parce que la guerre, c'est d'abord le fric. Et quand on se sent aussi... quand on ne peut rien faire contre ça, en définitive, vous comprenez.
Ce qui est plus près de vous, alors peut-être, c'est mai 68, vous avez du reste écrit été 68, vous avez composé une chanson. Cette contestation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté et comment vous êtes retrouvé au milieu de cette contestation de jeunes?
D'abord, moi je suis contre le mot contestation parce que il est pris mal à propos contre les contestataires, par les contestataires. On a tendance toujours à tourner les choses graves à la rigolade parce que le ridicule tue, c'est pas comme on dit, qui dit d'ailleurs. Et je ne suis pas pour ce... admettons que ça m'ennuie d'employer ce mot-là, mais en mai 68, il y a une porte extraordinaire qui s'est ouverte, et une porte qui existait depuis longtemps, mais vous savez, lorsqu'on peut vous dire, on vous raconte des choses, par exemple, vous êtes petite, viens, je vais t'amener dans une maison, je vais t'amener, tu vois là-bas, il y a des choses extraordinaires, quand vous dites un conte à un petit, n'est-ce pas, vous pouvez lui dire, tu vois derrière, il y a une porte là, mais il faut peut-être que tu la trouves. Et vous le laissez seul dans cette pièce où il s'agit dont il s'agit dans ce conte que vous lui racontez, n'est-ce pas? Et cette porte, elle est là, n'est-ce pas? Et on ne la voit pas. Et en mai 68, ils l'ont vue. Alors ils ont poussé la porte. Ils sont allés dans la rue, bien sûr, il y a eu les rues des pavés. Et il y a eu les flics aussi, parce que il y a toujours les flics partout, n'est-ce pas? Le fric, c'est les flics, c'est pas... Les gens au pouvoir ont des flics qui les gardent, et qui gardent cette chose extraordinaire qu'ils appellent le pouvoir, parce qu'il y a toujours un mec qui gouverne, des autres qui gouvernent, des millions de mecs, n'est-ce pas? Je dis mec bien à propos, parce que c'est un mot simple, et au fond, les gens devraient être des mecs. Un mec, c'est un dur, n'est-ce pas? C'est plus qu'un homme. Et ça court pas les rues.
Vous donnez raison aux jeunes qui ont manifesté en 68.
Mais évidemment.
Totalement raison. Avez-vous l'impression qu'ils ont fait un pas en avant, qu'ils ont bougé, qu'ils ont changé des choses?
Oui, vous savez, il n'y a pas que mai 68, mais 70, c'est un
début.
Puis c'est la France.
Oui.
C'est partout que ça se passe. Il y a eu des mai 68 partout. On ne peut plus lever le doigt à Paris. Un jeune ne lève pas le doigt à Paris, sans qu'on le lève à Mexico, à Los Angeles, à... voire même à Moscou, n'est-ce pas? Et c'est plus important que 89, parce que le fait que ça ait avorté, vous savez, parce que quand on l'emploie contre les pavés des mitrailleuses, ça ne peut pas durer longtemps, vous comprenez? Ce qui manquait aux jeunes, c'est d'être armé. Et encore, je pense que c'était pas tellement utile. Ça a été bien. Les barricades, c'est comme c'est Trotsky, c'est le romantisme qu'il faut
à la révolution de la rue, à la révolte dans la rue, n'est-ce pas? Et évidemment, ça ne fait mal à personne, ça fait surtout pas mal aux flics, même si on s'en sort pas de la gueule. Et parce que les flics ont des balles et parce que les flics tuent. Ils ont tué des gens d'ailleurs à Paris.
Et les jeunes aussi ont quand même se sont bagarrés. Les jeunes, il y en a certains qui étaient armés. C'était un danger aussi de la part des jeunes. Bien sûr, les flics peut-être, mais il y a aussi les jeunes qui se sont battus.
Évidemment, ils se sont battus, puis ils ont été à l'hôpital. Ça, oui. Ils se sont battus dans, comment dirais-je, du côté toujours du faible, vous comprenez.
Mais ça, au fond, maintenant, quand on voit ça avec le recul, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que ça s'est passé dans la tête. Et que c'est une révolution de l'intelligence, comme disait mon camarade Popol, qui est mon pianiste. Il m'a dit, tu vois Léo, ça ne s'est jamais vu, c'est la première fois dans l'histoire qu'on constate la révolution collective de l'intelligence. Et c'est important, l'intelligence, quand même.
Vous êtes réellement pour les jeunes, et cependant les jeunes sont, employant le mot, je sais bien que vous ne l'aimez pas, mais sont quand même contestés, sont des jeunes, on les dit drogués, on les dit déséquilibrés, quand même il y a plus de drogue, on en parle d'une façon peut-être plus ouverte maintenant, il y a les fameux hippies aussi. Qu'en pensez-vous?
À partir du moment où on dit la drogue, moi je ne me drogue pas, moi je trouve que c'est malheureux de se tuer, quoi, parce qu'il y a des drogues qui font mal, c'est sûr ça, mais ça ne me regarde pas, quelqu'un qui veut se droguer, il se drogue, parce que ces drogues, c'est qu'il a des raisons. Bon, moi je trouve qu'il y a deux drogues merveilleuses et indispensables et irremplaçables, c'est la musique et l'amour. D'ailleurs, ça va de pair, n'est-ce pas? Si les gens savaient combien c'est une drogue, la musique et l'amour, ils ne se drogueraient pas. Bon, maintenant, cela dit, si un jeune se drogue, il a besoin de ça, vous comprenez? Moi, je n'ai pas besoin de me droguer, sinon je me droguerais, vous comprenez? C'est une, cette évasion, d'ailleurs, c'est un lieu commun. C'est une évasion, c'est une, comment dirais-je, il tue cette morale religieuse et bourgeoise abominable qui fait que nous sommes encore au XVIIe siècle.
Les hippies pour vous?
Les hippies, c'est les fleurs, bon, c'est sympathique, mais on se bat pas avec les fleurs, on se bat avec ça.
Oui, faire l'amour pour faire la guerre, c'est pas plus joli, vous venez de le dire, l'amour.
Et oui, d'accord, mais avant ça, il faut tout de même se défendre. Il faut casser la gueule à tous ces gens qui font la guerre, il n'y a pas de problème. La violence, ça doit arriver, vous comprenez, il ne faut pas se leurrer, quoi. Il ne faut pas dire, mais nous allons être dans notre coin, nous allons nous arrêter, nous allons recevoir des chiffres et tendre la joue gauche, vous comprenez, on n'est plus au temps du Christ, et encore savoir si c'est vrai, ça.
Je reviens encore sur les jeunes, parce que vous êtes très près des jeunes, et récemment, vous en avez donné la preuve, vous avez le public des jeunes, c'est-à-dire que c'est assez rare pour une personne qui chante depuis aussi longtemps que vous. Vous avez gardé l'ancienne génération, celle juste un petit peu avant, et vous avez la génération actuelle. J'aimerais bien vous m'expliquer un peu, vous, ce phénomène, vous qui êtes si près des jeunes. Ce sont quand même les chansons pas terriblement changées.
Non, c'est une question d'intelligence et de culture. J'ai constaté que, quand je parle à des jeunes, intelligents bien sûr, de 18 à 20 ans, ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus cultivés, ils ont beaucoup plus de vocabulaire, ils parlent beaucoup plus facilement que, par exemple, moi, je pouvais parler à leur âge. Et ça, c'est dû à quoi? Je ne sais pas, quoi. L'histoire va plus vite, les communications vont plus vite. Je parle des communications de la pensée, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus de livres qu'avant. Les livres sont plus accessibles parce qu'il y a la sollicitation, les vitrines, et puis parce que c'est peut-être un peu moins cher. On dit le livre, les puristes disent le livre de poche, c'est pas beau, c'est un sale papier, ou le livre de poche. Dans le livre de poche, il y a Voltaire, il y a Diderot, il y a Sartre, il y a Proust. Vous comprenez, il y a Bakounine. Enfin, dans le livre de poche, ça, c'est pas mal d'acheter un livre, de le lire, de le jeter. Vous comprenez? C'est comme un paquet de cigarettes. Vous n'avez pas l'idée de garder un paquet de cigarettes comme ça pour vos petits-enfants. Eh bien, on jette le livre. Le livre, c'est pas mal de jeter les livres. Vous comprenez? Ça empêche cette thésaurisation de la culture qui fait l'histoire, notamment littéraire et critique, et qui est la merde.
Comment était le Léo Ferré jeune, mettons à 15-16 ans?
Je sais pas. Moi, j'étais sous la loi paternelle. C'est que le code civil en France, c'est une sorte de droit romain rafistolé, quoi. Nous vivons en Corse sous une jurisprudence antique et solennelle. Et alors, moi, j'ai jamais eu 21 ans à la maison. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai pas eu l'idée, je me suis même pas dit, tiens, aujourd'hui j'ai 21 ans, quand même in petto, je n'ai pas dit j'ai 21 ans, même pas, je n'ai pas pensé, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, les parents élevaient leurs enfants, aujourd'hui c'est le contraire, les enfants, quand ils y pensent, élèvent leurs parents, et s'ils y pensent pas, tant mieux, parce que je trouve que c'est très bien. Vous comprenez? C'est très important de mettre un enfant au monde, mais une femme qui fait un enfant, elle commence au bout de 3e, 4e mois qu'elle est enceinte, elle commence à tricoter. Fait des petits jouets, elle fait un enfant pour elle. Elle fait un jouet. On n'a pas le droit de faire des enfants dans ces conditions-là. Il faut qu'un enfant, dès qu'il est mis au monde, soit élevé pour lui et non pas pour les parents qui le font.
Vous n'avez pas été élevé pour vous, étant un petit enfant, par vos parents, non?
Sûrement pas. J'étais sous la manus, vous comprenez. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Moi, j'ai eu l'enfance que l'on dit heureuse, mais qui n'était pas heureuse pour moi, parce que dans ma tête, dans mon cœur, j'étais seul, j'étais malheureux. Je ne pouvais même pas l'exprimer, parce que j'en parle aujourd'hui, mais je ne pouvais pas l'exprimer à ce moment-là. Vous comprenez? Les enfants ne parlent pas. Moi, je ne parlais pas quand j'étais petit. Je pensais tout. Et avec le peu de vocabulaire que j'avais, j'étais seul dans ces pensées. C'est difficile.
Vous êtes monégasque?
Je suis monégasque, j'ai la double nationalité.
Wow. Et vous avez fait vos études en Italie?
J'ai fait mes études en Italie, oui. Pas loin de chez moi, dans un collège qui était tenu. Je dis bien tenu, comme une maison est tenue par... voilà, c'est ce que je veux dire. Par des religieux qui s'appellent les frères des écoles chrétiennes. Ce sont des gens en noir avec un petit rabat blanc. Je suis resté 8 ans, je suis rentré là après ma première communion que j'ai fait en 1925, en octobre 1925, je suis parti un jour, on m'a mis dans un train et j'ai passé une douane. Et j'étais aussi loin de mon pays, j'étais à 20 km de mon pays ou 30, j'étais aussi loin que si j'avais été en Chine, n'est-ce pas? Il y avait vraiment un dépaysement qui était le dépaysement du bagne, n'est-ce pas? J'étais rentré dans un bagne, et je suis rentré le soir dans un dortoir. Vous imaginez ce que ça représente pour un enfant de 9 ans et demi rentrer dans un dortoir et où il y avait 40 lits, n'est-ce pas? Avec des numéros au-dessus des lits, c'était le numéro 38. Ça nous guette d'ailleurs le matricule. Mais moi, ça m'a pris très jeune et ça m'a gêné beaucoup.
Quelles étaient vos évasions alors? Vous en aviez?
Ben, les évasions, moi, je me suis toujours évadé comme j'ai pu, comme ça, en imaginant. J'avais la possibilité parce que... je suis doué pour ça. C'est pour ça qu'en définitive, je n'aime pas tellement voyager, parce que j'ai pris la sacrée habitude de m'arranger avec mes petits voyages dans ma tête. Ouais. Alors j'invente des mondes comme ça. Et j'inventais des mondes. Et j'étais un artiste, et je ne le savais pas. J'inventais de la musique, je chantais comme ça. Et je croyais que tout le monde chantait comme moi, vous comprenez. Mais le jour où j'ai dit que... Par exemple, un jour à table, je ne parlais jamais. C'est-à-dire que je ne me révoltais jamais. Mais de temps en temps, il y avait quelque chose qui dépassait la mesure, et alors, pof, j'envoyais le grand coup. Et un jour à table, on mangeait à la cuisine chez moi. Pardon. Un jour à table, j'ai dit à mon père, la musique, enfin, et mon père m'a dit, ce lieu commun abominable, la musique ne nourrit pas son homme. Enfin, ces paroles grotesques, ces paroles idiotes qui sont au-dessus des gens, comme ça, qu'on raconte. Et alors j'ai dit, mais trouvez-moi une qui me nourrisse, j'aimerais une peine terrible. Vous comprenez? Et comme ça, puis alors après je fermais ma gueule, tout ça. Et puis j'ai terminé mes études. Je m'étais fait à cette espèce de bagne, puis je crois que, d'ailleurs les bagnards qui vivent encore sont là pour le dire, on se fait au bagne, n'est-ce pas? Le pire des bagnes, c'est le bagne dans la tête, n'est-ce pas? C'est pas le fait d'être en régimenté ou en brigadé, d'avoir des gamelles, de manger à une telle heure sous une sonnette. On faisait la prière avant de manger. Mon Dieu, bénissez la nourriture que je vais prendre, faites que j'enfance un bon et saint usage. Si vous saviez ce qu'on mangeait parfois, une morue dégueulasse avec du riz, horrible. Faites que je fasse un bon et saint usage de cette morue ignoble et de ce riz à ne pas faire. Vous comprenez? Ça, c'était pas possible. Et ça m'avait marqué. Et on ne parlait que le samedi soir, que le jeudi à midi et le dimanche. Sinon, on faisait la lecture. Et nous faisions nous autres la lecture au fur et à mesure. Et le lecteur, quand il devait changer de voix, c'est-à-dire quand c'était l'autre qui devait prendre sa place, il y avait une sonnette, on sonnait comme ça, l'autre se levait, il interrompait sa bouffe et il allait continuer le livre. Toujours des livres, évidemment pas des livres érotiques, ni Voltaire, ni Mallarmé, ni Diderot, mais les livres de ces gens-là, quoi, les livres contrôlés par l'imprimature.
Mais à quel moment a été écrite la messe à trois voix?
Ben, ça a été écrit, je vais 13 ou 14 ans.
Vous avez fait ça au collège?
J'ai fait ça au collège, caché, parce que je prenais vaguement des sons de piano, comme ça. Et puis je me cachais pour écrire de la musique. J'ai l'impression que, étant donné qu'au fond, vous voyez que c'est une drogue. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la musique est une drogue, parce que j'étais fait de la musique en cachette. Et si on me piquait à faire de la musique, je pensais que si on me piquait à faire de la musique, c'était pas bien, c'était le péché, quoi. Le péché, vous comprenez? Le péché.
Vous avez pu en faire ouvertement à quel moment?
Mais je peux en faire ouvertement quand je suis plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai pu voler de mes propres ailes, c'est encore un mot, tiens, un lieu commun, merveilleux. Et je suis parti de la maison, et puis j'ai été à Paris. Et,
vous avez claqué les portes en partant, ou ça s'est passé gentiment?
Non. Je ne peux pas aller claquer les portes à la porte à ma mère, c'est une brave femme qui m'adore, et mon père aussi, vous comprenez. Je suis parti comme ça, et puis je n'ai pas tellement été heureux, ça a été difficile pour moi, je ne leur ai pas tellement dit, évidemment, parce que je ne voulais pas leur faire de soucis. Mais je suis allé à Paris, et puis je me suis dit, il faut que je ne fasse que ça. Et un artiste doit faire que ça, même s'il crève de faim. On ne crève jamais tout à fait de faim, on peut toujours faire quelque chose pour acheter une baguette de pain, un bout de pain, vous comprenez, manger un bout de fromage, on ne crève pas de faim dans nos pays, c'est pas vrai. Et, mais quand même, c'était à ce point-là pour moi. Surtout, ce qui me gênait, c'est que, par exemple, j'ai toujours eu plus ou moins des cigarettes à ce moment-là, mais je ne savais jamais si le lendemain j'avais l'autre paquet de cigarettes. C'est pour ça que le jour où j'ai pu acheter une cartouche de cigarettes, je me suis dit, mon vidéo t'en est sorti, parce que j'avais de l'avance, vous comprenez, je thésaurisais les cigarettes, vous comprenez. Avec une sorte d'idée je me faisais ma propre banque. Vous voyez. C'est toujours un banquier qui dort dans les gens, vous savez, toujours. C'est toujours un peu banquier.
Pendant la guerre, où vous étiez en pleine musique, où étiez-vous pendant la guerre?
J'étais à Monaco.
Vous étiez avec votre famille?
J'étais avec ma famille. J'avais fait. Je suis français, j'avais fait mes. J'étais le.
Vous êtes naturalisé français?
Non. Je suis français d'origine. J'ai fait le service militaire en 39, j'étais universitaire. Oui. Et je suis allé à Montpellier pour faire les écoles d'officiers de réserve. J'étais à Saint-Mexant. Et je suis devenu tirailleur, aspirant de tirailleur algérien. J'avais un képi bleu. C'est tout ce qui me reste comme souvenir valable. Quoi.
Mais c'est à quel moment vous avez décidé, vous avez dit à partir de maintenant, moi je suis musicien, je ne fais que de la musique.
Eh bien, quand je suis parti à Paris, donc c'était fin 46.
Seulement à ce moment.
Seulement à ce moment-là, oui. Fin 46, et je suis parti, et puis je me suis lancé, quoi. Puis c'était dur, évidemment, parce que...
La première fois que vous avez chanté, ça s'est passé où, quand, comment? Parce qu'on a dit que c'était dans un cabaret, que ça s'était assez bien passé, etc. Comment c'est la première fois que vous avez chanté à Paris?
À Paris, bien, au Bœuf sur le Toit.
C'était au Bœuf sur le Toit.
Au Bœuf sur le Toit, oui. Qui était sur ça, en pleine décadence intellectuelle, il n'y a plus personne qui allait là, quoi. Et à ce moment-là, je chantais avec, en même temps que moi, il y avait le frère Jacques, qui débutait aussi, puis un tandem qui s'appelait Roche et Aznavour. Car Aznavour a débuté avec son copain qui s'appelle Pierre Roche. Mm-hmm. Nous étions très amis. Je suis resté 3 mois là, et puis après, ça a été chômage longtemps, enfin, puis après Saint-Germain-des-Prés.
Vous avez toujours fait...
Ça n'a pas tellement beaucoup d'intérêt. L'histoire des premiers ratages des artistes, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que...
Vous étiez tout seul à ce moment.
Comment ?
Vous étiez tout seul à ce moment, c'est-à-dire que, par exemple, votre mère, vous venez dire, mes parents ne m'ont pas aidé dans ce sens. Est-ce que vous aviez, par exemple, un amour dans votre vie,
oui,
une femme,
pas,
une jeune
j'étais marié,
fille qui
j'étais
vous étiez déjà marié.
Une première fois, oui.
Oui. Elle vous a aidé
Non. Elle était assez jolie, pas tellement intelligente. Ça ne me gêne pas qu'une femme soit pas tellement... j'aime bien une femme intelligente, enfin de l'intelligence, pas de l'ivresse, de l'intelligence des choses de la vie. Ce qui me gêne chez la femme, c'est la culture. Hein. Les femmes cultivées, je ne peux plus supporter. Vous voyez je dis que si, pour savoir qu'il existe François Villon ou Rude Boeuf ou, je sais pas moi, Évariste Galois, il y en a qu'un qui est dans la famille, ça suffit, vous comprenez, hein? Bon, les femmes cultivées, ça m'emmerde.
Alors une femme,
une femme cultivée, ça cause, ça critique, ça veut aller au-delà de votre propre culture, vous comprenez, ça vous bagarre, c'est pas embêtant. Moi, j'aime bien les femmes qui vous aiment, comme ça, simplement, voilà, et c'est rare.
Vous ne croyez pas à l'amour?
Je crois à l'amour, mais c'est rare.
Celui qu'on vous donne?
Celui qu'on me donne?
Oui, vous croyez à l'amour?
Oh, vous croyez qu'on vous donne tellement l'amour. L'amour, c'est celui que vous donnez, vous savez, c'est pas celui qu'on vous donne.
Vous en donnez?
Je crois.
Vous avez l'impression d'en avoir beaucoup donné dans votre vie?
Beaucoup trop, oui.
Vous le regrettez alors?
Non, parce que moi je ne regrette pas ce que j'ai pu donner, je m'en fous, mais beaucoup trop dans le sens que j'aurais dû me contrôler davantage, être plus égoïste. Moi, j'ai toujours voulu être un indifférent. Et je ne peux pas l'être. Indifférent d'un monsieur qui se met en marche des autres et qui s'installe dans sa fauteuil et qui regarde. C'est un peu Dieu doit être l'indifférent.
Et l'amitié?
Sinon, il serait ici avec nous. Hein?
L'amitié, c'est plus important que l'amour pour vous?
L'amitié, c'est l'amour, c'est pareil.
C'est pareil pour vous.
Ah, c'est pareil. L'amour, c'est amour. L'amitié, d'abord, dans l'amitié, il y a le mot amour. C'est pareil. C'est pareil. Ce n'est pas le... Vous comprenez qu'on vit avec une femme. Parce qu'on est fait comme ça, parce qu'on a envie d'une femme. On couche avec elle, on fait l'amour. Bon. Ça n'est pas tellement... ça fait partie de la chose, vous comprenez. Mais un ami... on l'aime peut-être d'une autre façon, mais pour qu'il y ait ce contact, qu'il y ait l'amitié, il faut qu'il y ait l'amour, c'est-à-dire le désintéressement, vous comprenez. Évidemment, on ne couche pas avec un ami, ça arrive, c'est pas mon problème.
Mais quand même, l'amour qu'on connaît dans votre vie, ça c'est un amour certain, c'est l'amour des animaux.
Oui.
Ça commençait comment? Tout petit, vous aimiez les animaux?
Oui, c'est peut-être une revanche, tu sais. Peut-être je me suis mis dans un coin comme ça parce que... moi, j'avais un oncle qui avait un chien qui s'appelait Dick. C'est un petit chien, petit fox à poil dur. Ce chien, mon oncle venait m'apporter des croissants chez mon grand-oncle, chez ma mère. C'était un brave homme. Il buvait un peu. Il n'était pas gênant, d'ailleurs. Il faisait peur parce qu'il était grand, il avait des grands pieds, avec un pas lourd, vous comprenez. Il apportait des croissants et il venait avec le chien. Et lorsque des fois il partait tout seul, qu'il aille chez ma mère ou qu'il aille ailleurs, le chien pensait qu'il était chez ma mère, comme d'habitude, et le chien prenait le tram. Et pour venir chez moi, il fallait changer de tram. Le chien changeait de tram. Je le savais, ça. Tous les gens le savaient, d'ailleurs, on regardait le Dick changer de tram à un certain moment. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé. Et je m'étais dit toujours, j'aurais un chien, quoi. Et puis, vous savez, l'amour, quelqu'un qui aime, il ne peut pas aimer sans aimer les animaux, qui sont des êtres innocents, qui sont des êtres qu'on ne protège pas, en définitive. Bien qu'il y ait des gens qui fassent des tracts encore, des pétitions, ça existe. Mais il y a de sales gens, vous savez, qui n'aiment pas les... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les animaux. Ça, c'est dégueulasse.
Vous avez eu tout de suite un chien ou deux, à la fois?
J'ai eu un chien, puis je l'ai perdu en Angleterre, oui. Et puis après j'ai eu un autre chien, et puis... J'ai toujours été emmerdé par les chiens. Toujours, toujours. Des gros. Ça pose des problèmes de voiture, de déplacement, des gens qui vous invectivent. Un jour, devant chez moi à Paris, je voyais une femme. Je sortais avec mes deux gros Saint-Bernard. Évidemment, c'était gros, quoi. Je demandais rien à personne. Il y avait une espèce de terrain vague en face, chez moi, à la porte Maillot, où maintenant il y a un parking. Et je rentrais dans ce terrain vague pour faire pipi au chien. Et je vois cette femme, de ces citoyennes, vous savez, qu'on voit avec leur charrette, avec l'air un peu l'invective au bord des yeux, vous savez, leur charrette, juste leur voiture d'enfant. Il y en avait trois ou quatre, enfin, deux comme ça qui suivaient, puis il y en a un ou deux dans la... Enfin, ces gens qui ne s'arrêtent pas de faire l'amour. Je ne dis pas qu'ils ne s'arrêtent pas de faire des gosses, qu'ils ne s'arrêtent pas de faire l'amour, qui ne savent pas s'arrêter, vous comprenez. Et elle me dit, si c'était pas une honte d'avoir des chiens pareils, vous vous rendez compte, alors ça, c'est pas possible. Je lui dis, alors, citoyenne, les mômes que tu as dans ta charrette, c'est pas moi qui te les fais. La prochaine fois, tu n'as qu'à fermer le robinet, tu n'as qu'à faire comme moi. Vous comprenez. J'ai dit, quand on baise, on ferme le robinet. Ça, c'est important.
Des chiens, d'accord, mais vous avez eu ensuite, vous n'avez pas eu que des chiens, il y a eu des chèvres, il y a eu un cochon, il y a eu un poney, il y a eu surtout Pépé. Mais là, c'était pas seulement un chien ou deux chiens ou trois chiens. Pourquoi Pépé? Pourquoi un chimpanzé?
Vous savez, je suis passé à l'Embrun en 1961, et il y avait un brave homme qui avait, dans la première partie, il passait avant moi, un numéro de chimpanzé. Qui faisait faire des tours, partait en roulette sur la motocyclette. Et ce type était bien parce qu'il est dressé, mais il est dressé avec les yeux. On sentait que le chien pensait très intelligent. Il n'avait pas besoin de le battre, de taper dessus pour qu'il fasse quelque chose. Ce type avait le génie du dressage, le regard qu'il fallait. Je me souviens, il y avait dans ma loge, il y avait un petit chimpanzé un an, deux ans, enfin, à qui ils commençaient à apprendre à aller en bicyclette sur des appareils spéciaux. Ouais. Et le petit chimpanzé, parce que le chimpanzé grimpe, c'est son métier, c'est de grimper. Ils ont des mains comme ça, ils ont le pouce qui est atrophié parce qu'ils s'en servent pas, ils ont leurs quatre doigts comme ça. Et alors, le petit chimpanzé se mettait comme ça sur le bord de ma table de loge, et puis il essayait de grimper comme ça, puis en disant, il regardait le mec, et le mec il était là comme ça. Et le petit, il s'arrêtait, il descendait. C'était formidable. Je vous raconte ça parce que un jour, il m'a amené Pépé, il m'a fait voir Pépé, j'ai pris Pépé, je l'ai acheté. Et il m'a dit, faites attention, très vite, si c'est pas vous le patron, c'est elle. Et c'est le temps que j'ai eu, ça a été elle, la patronne, tout de suite. C'est vous dire que c'était d'un encombrement affectif terrible et d'un encombrement physique terrible, parce qu'un chimpanzé, ça grimpe. Quand ça grimpe, quand ça essaye de grimper sur le bord d'une table de loge, ça va. Mais quand ça grimpe dans votre maison, quand ça grimpe sous votre toit, que ça vous enlève les tuiles, j'ai toute maison détuilée. Il pleuvait dans ma maison. On disait que j'étais dans un château, mais j'étais dans un château malheureux. Vous comprenez ? J'étais une vieille masure. Et la vieille masure, c'était Pépé qui l'avait faite. Elle était la reine. Mais c'était mon enfant. C'était ma fille. Je n'avais fait d'enfant à personne. Un jour, quelqu'un m'a apporté un enfant. Et un chimpanzé, ça n'est pas un singe. On dit que c'est un anthropoïde. Parce que ce sont des chiens qui n'ont pas la queue. Ils nous ressemblent. Il y a autant un abîme aussi considérable entre le chimpanzé et le chien qu'entre nous et le chien. C'est vous dire qu'ils sont près de nous. Et alors, elle me singeait comme on fait singe. On dit que les enfants imitent leurs parents. On les fait imiter. On dit que les singes singent l'homme. Mais les enfants singent l'homme. Parce que si les singes pas l'homme, on leur tape dessus. Tu as mangé ta soupe comme ça, tu as dormi à table, va faire caca dans ton pot. Vous comprenez? Et cela dit, on dit, les singes, ils singent l'homme. Et quand on voit un singe dans un zoo, dans une cage, on rit. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Parce qu'ils nous ressemblent tellement. On rit parce qu'ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent d'une façon comique parce qu'ils ont des traits qui sont démesurés et qui nous ressemblent tellement d'une façon démesurée qu'on rit pour ne pas pleurer. Je parle des gens intelligents qui peuvent regarder les chimpanzés dans les cages. Elle nous singeait donc. Elle était donc comme un enfant à qui on apprenait à faire des choses. Elle apprenait vite. Et une chose qui m'a été insoutenable au moment où ça m'est arrivé, et que je raconte maintenant toujours avec tendresse, c'est un jour, vous savez que moi, Popol, c'est mon pianiste, qui est avec moi depuis 12 ans, et qui est aveugle. Elle savait, Popol venait à la maison pour répéter, elle savait confusément qu'il se passait quelque chose, qu'il n'était pas comme tous les autres. Alors quand il venait, elle le chahitait moins que les autres. Je ne sais pas pourquoi, espèce de prescience. Et un jour, elle avait la singulière manie de vous remplir votre verre de vin. Elle vous donnait le verre de vin, ou vous le preniez, et elle vous regardait bien, comme ça, près de votre gorge, et elle devait se demander où ça va foutre le camp, ça, ce qu'il ingurgite, ce mec. Elle regardait comme ça. Et le jour, Popol était à votre place, là il y avait Pépé, elle et moi, et je vois, je ne dis rien, et je vois Pépé qui prend la bouteille et qui met du vin dans le verre de Popol. Et attends, évidemment Popol n'a pas vu qu'elle l'avait servi. Et moi je n'ai rien dit. J'attendais, je ne sentais un miracle. Et le miracle est arrivé. Elle a fait comme ça, devant les yeux de Popol. Et puis, elle a pris sa main. Elle lui a fait prendre le verre. Et il l'a bu, et elle a regardé. Et moi, je pleurais.
Vous savez qu'il y a des gens qui vous écoutent parler d'un chimpanzé, et il y en a déjà qui l'ont dit, mais après tout, il y a des enfants qui sont tout seuls, il y a des enfants dans les crèches. Pourquoi avoir adopté des chiens, avoir des chiens, un chimpanzé, il aurait mieux fait d'avoir des enfants.
Ah, mais ça, alors, ça j'ai une réponse facile. D'abord, ces enfants, c'est pas moi qui les ai fait, les gens qui les ont fait. Il faut qu'ils en prennent la responsabilité. D'autre part, les enfants, un jour ou l'autre, se défendent parce que ce sont des fils d'hommes et les hommes font des lois pour protéger les hommes. Les hommes font pas des lois pour protéger les animaux. Alors moi, je fais ma loi d'amour pour protéger les animaux que je rencontre qui sont malheureux. Voilà.
Avez-vous déjà aimé un être humain autant que vous avez aimé Pépé?
Ah, vous me surprenez. Je sais pas.
Tout à l'heure, on a parlé de vos débuts, et vous avez parlé justement d'Aznavour et Roche, qu'on a très bien connus ici, parce qu'ils ont commencé aussi ici. Parmi tous ces gens avec lesquels vous avez commencé, ceux que vous connaissez, des gens de carrière, est-ce que vous avez des amitiés? Vous les fréquentez régulièrement? Enfin, des relations peut-être un peu plus suivies que les autres, puisque vous ne croyez pas terriblement à l'amitié.
Il n'y a pas d'amis dans ce métier.
Il n'y en a pas?
Non, je pense que des jaloux.
Est-ce que vous êtes jaloux des autres?
Je ne crois pas. Mais peut-être, je ne sais pas. Je ne crois pas parce que j'ai essayé de faire des rencontres comme ça. Et puis c'est toujours tombé à côté. Les gens font des manières, des choses, ils vous disent des trucs, et puis... Puis après, il se dégonfle. Moi, l'année dernière, j'ai fait une rencontre comme ça pour la radio, pour une radio privée à Paris, avec Brel et Brassens, qu'on connaît ici, j'espère, autant qu'Aznavour et Roche. Et puis, voilà, c'est tombé à un autre bout de quoi. Je voulais qu'on chante ensemble quelque part un jour. Puis après, j'ai trouvé le moyen qu'on chante ensemble, et puis ils ont plus voulu. Il y a toujours moyen de se dégonfler. Voilà. Il n'y a pas d'amis. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se rencontrer. Je pense que ce n'est pas le fait que l'artiste soit seul, je crois. Quand l'artiste... quand on est un artiste, je pense que quand on se lève le matin, on doit se dire « je suis le plus grand » et tout ça. C'est triste, vous voyez. Je suis moi, alors je ne peux pas supporter qu'il y en ait d'autres qui fassent aussi bien que moi. Je pense que c'est aussi bête que ça, aussi banal que ça.
Alors parmi ceux qui vous ont interprété, est-ce qu'il y en a qui ont été plus près de vous?
Oui. Enfin, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait mes chansons, pas tellement. Et puis, à vous dire la vérité, je courrais pas après ça, en définitive, vous comprenez. Parce que je suis un type vraiment seul, et puis que je m'en fous.
Si vous arrivez d'encourager des jeunes, moi je pense à Johnny Hallyday, je pense à Mireille Mathieu parmi les jeunes, qui ont quand même une certaine notoriété.
Vous parlez de gens là, qui n'ont pas besoin de moi.
Non, mais quand même.
Oui, alors que je voulais que je fasse, moi. Ces gens qui sont très connus, pourquoi?
Non, est-ce que vous avez des relations avec eux? Est-ce que vous pouvez leur dire, il faut faire attention quand même, dans la vie, on a un succès maintenant, et puis peut-être dans 5-6 ans, on se laisse aller puis...
Non. Puis, vous savez, les gens font leur vie, je m'en fous. Ouais. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est égal. Les gens qui viennent me demander des conseils, je dis toujours que je ne donne pas de conseils, ou viennent me faire juger un texte, combien je reçois de textes, des choses toujours très mauvaises, qui ne sont ni faites ni à faire, comme on dit. Je leur dis, faites comme moi, n'allez voir personne. Moi, j'ai jamais été voir personne. Travaillez seul. Si vous avez quelque chose à dire, vous le direz. Si vous n'avez rien à dire, ben vous ne direz pas. Puis ça fera faute à personne parce qu'il y en a déjà beaucoup.
Hein. Je vais vous dire, j'ai cité Johnny Hallyday et puis Mireille Mathieu parce que j'avais lu quelque part que vous ne les aimiez pas particulièrement.
Ah, pas du tout.
Un jugement très sévère.
Pas du tout. Non, Johnny Hallyday, je ne le connais pas particulièrement. Je trouve que c'est un phénomène et que... C'est d'ailleurs c'est le phénomène qui résiste et qui est encore et qui fait des salles pleines. Donc il se passe quelque chose. Ça correspond à ce côté un peu, à ce rejet, à cette séquelle du rock qui vient en France. En France, on fait les choses 10 ans après l'Amérique. Quant au deuxième personnage dont vous parlez, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est un objet manufacturé, c'est une crécelle. Écoutez bien ce que ça veut dire. Si des gens ils sont gentils, on les fait chanter comme on fait, comme on fait marcher une porte bien fermée, il faut bien que ce soit parfait. C'est plus de l'art, c'est de la maçonnerie.
Vous avez déjà écrit tout au moins des poèmes, je ne parle pas d'autre chose, mais vous avez dit dans Poète vos papiers, la poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe, ne clame plus, elle rampe. Est-ce que vous diriez la même chose maintenant? Vous avez écrit ça il y a 15 ou 16 ans. Vous diriez la même chose maintenant? Oui, la poésie rampe.
Oui, parce que il faut voir dans quel sens j'ai dit ça. Je ne sais pas si vous lisez la poésie contemporaine, mais la poésie contemporaine n'existe pour moi, n'existe pas. Ce sont pour la plupart des faux poètes, des gens qui se cherchent, qui se trouvent, qui se détrouvent, qui se recherchent. Moi, c'est des petits branleurs, quoi. Bon, je parle d'un fameux qui a le prix Nobel, qui s'appelle Saint John Peirce. Ce que c'est? C'est du verbiage. La poésie, c'est... C'est un truc qui se juge pas, c'est un truc qui vous prend là, qui vous fait pleurer, c'est comme la musique. Ouais. Les choses qu'on lit comme ça, d'une oreille, avec des yeux mathématiques, c'est des organigrammes, ou bien des cartes perforées, c'est pas de l'art. C'est dans ce sens que je dis que la poésie rampe.
Toujours, pas changé.
Il y a plus de poètes par siècle, c'est comme le 19e siècle, vous avez dans la main, qui est-ce qu'il y a eu au 19e siècle, hein? Bon, Rimbaud, c'est un gars de mai 68. Lui, alors, c'est le grand visionnaire. C'est le grand poète français, c'est lui, l'extraordinaire type. Et puis les autres, très bien.
Vous avez chanté les poèmes d'Aragon, vous les avez mis en musique, et tout à l'heure, on parlait des gens que vous fréquentiez. Si vous le rencontrez souvent, Aragon, c'est quand même pour vous un grand poète.
Oui, c'est évidemment. Je le rencontre pas souvent, parce que... On est toujours pris par quelque chose, on dit, je vais les voir, puis il m'envoie ses livres en guise de dédicace, il m'écrit toujours sur la page de garde une véritable lettre, une lettre de regret un peu, on te voit plus, viens nous voir. Et puis, il est très gentil, et puis, qu'est-ce que vous voulez y faire? Je suis négligent. J'aime bien le voir, elle aussi. Et puis, je sais pas, difficile à dire tout ça.
On a dit de vous que vous étiez un homme d'affaires averti. Non? Vous ne voulez pas être exploité quand même, vous faites très attention à ça.
Ouais, mais j'aime pas exploiter, je gueule toujours, mais j'ai toujours exploité, j'aime toujours exploiter. Les artistes sont des putains. Si on n'était pas putains, on ne ferait pas ce métier-là. On s'offre sur la scène, on se donne quelque chose du soir, d'abord le costume, rien ou toucher. La voix, le machin. Entre la voix et le cul, il n'y a pas tellement de distance, vous comprenez? On vend quelque chose. C'est difficile, c'est une putain, c'est de vendre son corps pour la première fois, parce que c'est énorme, et puis après on prend l'habitude. Quand on prend l'habitude de chanter. Voilà.
Vous dites et voilà.
Ben
c'est cependant pas aussi simple que ça. Vous avez aussi dit récemment, je m'excuse de vous citer comme ça, mais et ça c'est très récent. Un jour, un fou viendra, et je me ferai descendre sur scène. Pourquoi avez-vous dit ça?
Parce que... C'est une chose que je sens comme ça. Et parce que... J'ai toujours l'impression, on va dire pénible alors, quand je suis sur scène, d'être livré, quoi. Vous savez? D'être livré à... Comme ça, puis d'être sans défense, quoi. D'arriver avec... Mes chansons, enfin... Le costume que j'ai... Ma gueule, et puis d'être livré, j'ai pas peur, mais j'ai l'impression que ce serait possible. Ce qui est embêtant, c'est que la journaliste en France à qui j'avais dit ça, vous savez, les journalistes font des articles, et puis après, il y a le titreur qui tire
oui.
Ce qui semble être la phrase la plus importante, enfin, la plus coup de poing pour attirer le lecteur. Parce qu'on attire toujours le lecteur. On vit dans un monde de voyeurs, n'est-ce pas? Alors ils ont titré, Léo Ferré de points, je pense qu'un jour, j'ai le pressentiment qu'un jour un fou me descendra. Alors j'ai dit c'est embêtant parce que ça peut donner l'idée à quelqu'un, un fou justement. Bon, ok.
Vous n'êtes pas les journalistes, on a parlé d'homme d'affaires, vous avez été quand même imprimeur, éditeur, vous avez tout abandonné?
Oui, j'étais imprimeur, éditeur parce que j'ai voulu faire un livre pour quelqu'un que j'ai aimé. Et comme je ne suis pas un manuel et que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font quelque chose avec leurs mains, j'avais trouvé ce moyen. J'ai acheté ce qu'il fallait, quoi. J'ai fait un livre. entièrement à la maison. J'ai tout appris. Jusqu'à la rivière, tout. Et j'ai donc travaillé un peu avec mes mains. Je me suis beaucoup sali d'ailleurs, parce que l'imprimerie, ça salit. Ô combien. Et voilà pourquoi j'ai été imprimeur. Quant à l'éditeur, c'est rigolade, parce que on ne peut pas écrire, éditer un livre, on est tout de suite enfoui dans les oubliettes par la grande organisation, n'est-ce pas, de la librairie, quoi, il n'y a rien à faire. Si vous avez un livre même formidable, vous ne pouvez pas l'éditer, parce que vous êtes noyé dans cette espèce de truc incroyable, toujours dans le capitalisme, quoi, du trust partout.
Quand on dit de vous homme de ville, homme de nature, homme de ville, où? Quelle ville? Paris?
L'homme de ville?
Oui.
Oh, je sais pas, les villes, c'est... Moi j'ai beaucoup aimé
l'homme
Paris.
L'homme de la ville, l'homme de la nature.
J'ai beaucoup aimé Paris. Je l'aime toujours un peu d'ailleurs. Oui, notamment la Seine.
Vous n'y vivez pas maintenant?
J'y vais pas, non. Je suis à Paris quand j'ai besoin de travailler. Sinon, je viens d'Italie.
Pourquoi vous êtes en Italie?
Parce que, comme on dit, je voulais changer de crèmerie. Ça va ranger pour des tas d'histoires que ce serait trop long à vous raconter.
Bah, parce qu'on a dit aussi que vous étiez installé à Florence pour fuir le fisc français.
Ah, aussi. Vous pensez que... Je sais pas comment ça marche le fisc chez vous, mais...
Oui, c'est pas facile.
C'est la délation organisée, c'est une chose abominable. Quand vous touchez de l'argent, on peut pas m'assauter des droits d'auteur. En France, qui me paye régulièrement deux fois par an, je crois. En janvier et en juillet, on me donne de l'argent. Et puis, au début de l'année, ces gens-là vont dire à monsieur le fisc, voilà, j'ai donné tant à monsieur Ferré. Vous comprenez? C'est un pays et un d'indicateurs. Nous vivons dans un monde d'indicateurs. Et puis, en plus, oui, on indique des coûts. Alors, ma société d'auteur indique un coût au fisc, vous comprenez, en disant, j'ai donné 100 000 francs à M. Ferré, et M. Ferré, il est chocolat parce qu'il ne peut vraiment pas tricher. Vous comprenez? Parce que tout ce pognon, où ça part? Et puis, l'argent que moi, je gagne avec ma voix, j'estime qu'il est à moi, je n'ai rien à donner à personne.
Oui, mais dans quel pays vous pourriez avoir ça? Est-ce que vous en connaissez un?
Non, il faut ça fabriquer, je sais pas. Il faut essayer en tout cas, il faut partir. Il faut dire non. Même si en disant non, vous réussissez pas, il faut toujours dire non. Les gens disent jamais non, les gens se laissent faire, les gens sont des gens en laisse, ils sont des chiens, tous. Maurice, mon copain, me dit, autrefois il y avait des esclaves, et les esclaves ils étaient offerts comme ça. C'est pas, on les enchaînait et puis ils sortaient pas. Aujourd'hui, les esclaves, il me dit, on les envoie en vacances, une fois par an, et puis, ils reviennent. C'est vrai?
Je voudrais savoir pourquoi vous avez loué à Paris, vous, la mutualité. Vous avez chanté, si les places étaient quelque chose à 10 francs, je pense qu'à présent c'est à peu près 2 dollars. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez loué une salle pour chanter. Pourquoi Léo Ferré a fait ça?
Parce que les places de music hall, enfin les places pour les théâtres où on chante, sont très, très, trop chères. Je passe dans des endroits où il y a des places à 3500 francs. C'est vraiment exagéré. Et les gens qui viennent m'écouter, notamment les jeunes, les étudiants, n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas venir. Et 10 francs, c'est-à-dire 2 dollars pour un étudiant français, c'est beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent pour moi quand j'étais étudiant, alors pourquoi ça aurait-il changé?
Vous avez l'intention de le refaire, de recommencer
Sûrement, puis de faire ça en France, dans les grandes villes. Je voudrais que... Faire ça partout, enfin, je voudrais que la chanson devienne quelque chose d'accessible, enfin, vous comprenez.
On a l'impression, Léo Ferré, dans votre dernier disque, qu'il y a beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur. Est-ce que je me trompe?
Peut-être, oui.
Peut-être moi, je me trompe, ou peut-être il y en a plus.
Je suis un tendre, non. Il y en a plus, je sais pas. Moi, j'ai guère changé. Il est arrivé dans ma vie. Ce qui arrive à tout le monde, enfin. Puis des choses qui ne regardent personne, définitive. Je suis seul maintenant. Je veux dire, dans ma conduite intellectuelle de ma vie, il est possible que je sois plus tendre, que je me fasse, que je me mette à portée de tendresse des gens beaucoup plus facilement qu'avant. Voilà, c'est ça.
Comment se fait-il que très souvent les gens vous admirent et qu'en même temps vous les gêniez?
Oui, mais je gêne les gens qui sont gênés par ce que je dis. Alors, tant mieux, vous comprenez. Les gens ne peuvent pas tous être d'accord. Moi, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je pense que c'est des crapules.
Pourquoi? Il faut être d'accord avec vous?
Non. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des crapules. Ce sont des fascistes, ce sont des gens qui sont des bourgeois, des gens qui sont des traditionnalistes, des militaires, des gens décorés.
Est-ce que vous avez accepté la discussion, la conversation avec ces gens-là? Pas du tout.
J'essaie. Ça ne dure pas longtemps. J'essaie de comprendre un peu. Mais je vois tout de suite venir, vous comprenez. Ce sont des gens qui ont de la haine pour moi, pour ce que je fais, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir cette porte, n'est-ce pas, que d'autres ont ouvert. Vous savez, nous sommes sur un... Moi, je suis parti avec les jeunes, de toute façon. Je suis avec eux. Nous sommes sur un radeau. Eh bien, si vous nous rejoindre, il faut faire vite. Parce qu'on a laissé le continent loin derrière. Et on est des millions comme ça.
Est-ce que vous regrettez quand même votre vie passée? Si vous aviez à la refaire, vous feriez la même chose?
Je ne regrette pas. Le passé ne m'intéresse pas du tout. Le passé m'ennuie. Parce que quand je regarde mon passé, c'est toujours les souvenirs, et les souvenirs, les mauvais souvenirs. Parce qu'on ne se rappelle pas les bons souvenirs. On ne se rappelle pas, parce que le bon souvenir, on le cherche toujours demain matin, vous comprenez. Mais le mauvais, quand il vous saute à la gueule, c'est toujours celui d'avant. Alors c'est pour ça que moi, je ne veux pas retourner en arrière, jamais. Je ne me retourne jamais. Quand on se retourne, on voit toujours la merde. Moi, je ne veux pas.
Mais comment vous voyez, si vous le voyez, comment vous voyez le Léo Ferré de demain? Si vous ne voulez pas regarder le passé, vous vivez à la seconde même.
Et moi, je ne me vois pas.
Le Léo Ferré de demain.
Je ne me vois pas, je suis peut-être mort tout à l'heure, vous comprenez. Demain, je suis peut-être mort. Alors, I hope. C'est tout.
Pourquoi? Vous n'aimez pas vivre?
J'aime vivre, mais je suis conscient que la vie ne tient qu'un fil pour tous les gens. Il y a un petit machin dans mon cerveau qui peut avoir une hémorragie cérébrale tout à l'heure, vous comprenez? Alors pourquoi ferais-je des projets?
Vous pensez souvent à la mort?
Je pense tout le temps à la mort. Ça me faisait peur, non, j'en fais plus peur.
Comment
je pense
vous la
à une
voyez?
Belle femme, je suis une belle femme, formidable. Belle, extraordinaire. En noir, bien sûr. Avec un peu de rouge comme ça. Une blessure là. Puis il me regarderait qui. Tendre les bras comme ça. Viens mon petit. C'est une maman, la mort.
Vous n'aimez pas prendre l'avion et vous prenez quand même des avions.
Oui.
Quand vous montez dans un avion et que vous êtes là-haut, est-ce que vous y pensez justement à cette mort?
Non, non. J'ai d'autres choses à faire, vous comprenez. Je regarde dehors, le fuselage, les réacteurs, je demande à mes copains, dis donc, c'est... L'autre jour on est arrivé ici, il y avait une tempête, on fait du vent. Ça bougeait, ça ne m'était jamais arrivé. Je dis, ça bouge, hein, puis ça va vite, on dit que ça va à 900, 950 à l'heure, avec ce... ça fait des trucs, tremblements. Je dis, tu crois que c'est solide? Vraiment? Alors on me dit, oui, tu comprends, parce que c'est tout de même étudié pour ça. Je dis, oui, mais peut-être des fois une vis mal foutue, un ensemble de vis, il y a des vis aussi dans le matériel. Alors je pense à ça, j'attends. J'attends l'apocalypse, mais comme un spectateur. Puis je suis mal à l'aise parce que le rideau se lève pas, puis je veux pas qu'il se lève. Et puis à la fin, un jour, je suis descendu, il y avait le brouillard, et puis je disais, mais on descend, mais on descend. Et puis il n'y voit pas, je pensais au pilote, il n'y voit pas. Alors on me dit, mais il y a des appareils extraordinaires ici, parce qu'ils ont l'habitude, ça, ils ont souvent mauvais temps ici, la neige, tu vois. Et alors, tout d'un coup, j'ai vu des autos, et on a vu la piste, et il atterrit. En douceur, c'est le miracle, on a envie d'aller embrasser le pilote, quoi, en disant, c'est un type terrible.
On a dit qu'en partant du Canada, vous iriez aux États-Unis, puis ensuite en Union soviétique. C'est vrai qu'en partant d'ici, vous allez là-bas?
Non, non, pas du tout.
Vous n'allez pas, hein?
Non, sûrement pas, en tout cas, en Union soviétique, c'est pas, y a pas, pour moi, il n'y a pas de projet. Et puis je ne veux pas aller dans ces pays-là, qui sont des pays qui sont des pays fascistes. C'est bizarre, je vous dis. C'est que le communisme, c'est une grande faillite. Marx a vécu il y a un siècle. Et ça se sent. Puis là, on l'a laissé à la consigne de 1917 et personne jamais n'a été le réclamer. Même pas Lénine.
Vous êtes déjà arrivé à refuser d'aller dans un pays quelconque parce que vous n'étiez pas d'accord avec la mentalité?
J'ai failli refuser parce qu'il s'agissait dernièrement que j'aille dans le Moyen-Orient et que, comme on dit, d'une pierre deux coups, les imprésaris sont facilement convaincants pour ça. D'une pierre deux coups, d'une salle, trois salles, et tout ça, d'un avion, 10 avions, et puis on rentre jamais. Il m'a dit, est-ce qu'il a dit à Maurice, mon impresario, il a dit, Maurice, tu crois que Léo irait à Athènes, tu crois qu'on peut lui demander ça? Alors Maurice a dit, sûrement pas, lui demande pas, c'est pas la peine. Moi j'étais pas là, j'étais en Italie. Et puis, bon, on rentre, je rentre, on travaille, et puis on est dans la voiture un jour, tous les trois, avec Popol, Maurice et moi. Et Popol me dit, dis donc Léo, quand est-ce que tu fais ta prochaine municipalité UDR? Municipalité UDR, ça veut dire en France, municipalité au goût de la politique actuelle, c'est-à-dire Pompidou et le reste. Et alors, je lui ai répondu, mais je vais à Athènes. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison. J'irai n'importe où chanter, en définitive. Mais sentimentalement, il y a tout de même des endroits qui me gêneraient. Ou alors il faudrait que je parle pour la Russie, il faudrait que je chante en russe et que je leur dise tout ce que je pense.
Est-ce que vous savez exactement à quel moment vous allez chanter, où vous allez chanter, ou si tout est préparé pour vous? Puis on vous dit tu vas chanter à tel et tel endroit, à tel jour, à tel moment.
On me parle de ça avant, et puis après les détails sont faits en dehors de moi, parce que c'est plus confortable. Bon. On me dit est-ce que tu veux aller là? Alors je dis oui ou non.
Parce que maintenant vous êtes au Canada, vous êtes à Montréal, oui. Vous savez quand vous allez chanter ici?
Quand je vais chanter de nouveau ici?
Oui, ici.
Ah, je sais pas.
Non. Est-ce que je peux vous le dire?
Ah oui, je chante. Ah oui, mais ici.
Oui, là, ici, oui, vous commencez le 10. Hein.
Je commence le 10 au théâtre de Maisonneuve, c'est ça.
D'accord. Merci Léo Ferré.